Bonjour à toutes et à tous. Alors, je dois d'abord signaler que, effectivement, ce matin, j'ai eu un petit contretemps qui justifie, ou en tout cas qui explique pourquoi j'arrive en retard ce matin. Rien de grave, rassurez-vous. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose que je ne pouvais pas déplacer dans le temps. Et donc, c'est ce qui explique que je suis là à cette heure-ci. Mais Dieu est bon parce que finalement, nos frères ont fait en sorte que qu'il y ait toujours ce temps de culte et que je puisse arriver aussi à ce moment pour pouvoir apporter sa parole. En tout cas, je veux dire bienvenue aux uns et aux autres. En tout cas, je vois quelques personnes qui viennent de loin et aussi des visages que je revois. En tout cas, chacun d'entre vous, bienvenue. Comment décririez-vous votre relation avec Dieu en ce moment? Particulièrement proche de lui ou bien assez distant? Une relation sincère où vous dites à Dieu ce que vous avez sur le cœur, y compris vos questions et vos pourquoi? Dans le livre que nous étudions en ce moment, Dieu ne change pas. Dieu reste le même tout au long de ce livre, mais Habacuc, l'auteur de ce livre, le prophète Habacuc, lui, il change. Et il en est de même dans notre relation avec Dieu. Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même, toujours amour, toujours bon, toujours fidèle, toujours saint, toujours juste. Par contre, nous, nous changeons. Et souvent, dans le mauvais sens. Parfois dans le bon sens. Et le livre d'Habacuc nous enseigne à aborder la relation avec Dieu de la bonne manière. Parce que malgré ses questions, malgré son incompréhension par rapport à ce que Dieu lui répond, eh bien le prophète n'a pas renoncé pour autant à son Dieu. Je rappelle un petit peu le contexte, notamment pour celles et ceux qui nous rejoignent dans cette série. Le prophète Habacuc fait face aux injustices qu'il y a dans son pays. Le royaume de Juda. Et il se tourne vers l'Éternel avec tous ses pourquoi. Pourquoi, Seigneur, tu laisses toutes ces injustices se produire? Et le Seigneur répond qu'il va intervenir en faisant venir les Babyloniens, ce peuple sans pitié qui écrase tout sur son passage. Voilà la réponse de Dieu. Et Habacuc, en fait, en entendant cette réponse, en recevant cette réponse, ne comprend pas comment Dieu peut agir de cette manière-là, utiliser un peuple pire que le sien pour pouvoir châtier son peuple. Et pourtant, dans ce chapitre 2, il est appelé à avoir foi en son Dieu, à lui rester fidèle dans ces circonstances, combien même c'est des circonstances qui sont troublantes, et à attendre qu'il vienne, à attendre que Dieu vienne. Dieu révèle qu'en réalité, le peuple sans pitié sera lui-même jugé. Les Babyloniens qui commettent tant de méfaits seront aussi châtiés à leur tour. Leurs méfaits se retourneront contre eux. C'est ainsi que nous arrivons au dernier chapitre de ce petit livre. Ce chapitre 3 que nous venons de lire et qui a tout l'air d'un psaume, d'une prière destinée à être chantée par le peuple. Et je propose de le résumer ainsi. Fortifié par la promesse que Dieu vient, le prophète attend dans la joie et la confiance. Fortifié par la promesse que Dieu vient, que Dieu va venir, le prophète attend dans la joie et dans la confiance. Et je veux commencer justement par évoquer d'abord cette prière que Habacuc prononce dans ce chapitre 3. Parce que comment savons-nous que, effectivement, le prophète a une relation avec Dieu? Eh bien, parce qu'il prie. Comment savez-vous que vous avez une relation avec Dieu? Mais parce que vous lui parlez et qu'il vous répond par sa parole. Parce que nous lisons, effectivement, tout au long de ce livre, que Habacuc est en train de s'adresser à son Dieu. Depuis le chapitre 1, nous assistons à ce dialogue entre le prophète et l'Éternel. Habacuc pose ses questions, pose ses pourquoi, comme nous pouvons parfois en avoir. Pourquoi, Seigneur ? Et Dieu finit par lui répondre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la réponse n'est pas totalement celle qu'attendait le prophète. Mais il entend cette réponse et il accepte. Et c'est ce que nous voyons au verset 2 de notre texte. Donc je reviens en arrière, et nous allons avoir le texte sous les yeux. « Ô Éternel, j'ai entendu, donc la réponse, ce que tu viens de proclamer, et je suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ta colère, cependant, pense à être clément. » Qu'est-ce qu'Habacuc accepte ici ? Il accepte que Dieu ait décidé de juger son peuple, le peuple de Juda, par un peuple encore plus injuste. Oui, les Babyloniens sanguinaires vont arriver dans ce royaume. Et c'est pourquoi le prophète exprime son effroi. Il dit « Je suis effrayé devant ton œuvre. Tu annonces le jugement et j'ai peur. » Est-ce qu'il vous arrive aussi, lorsque vous priez Dieu, de lui dire « J'ai peur. Je suis effrayé. » Habacuc redoute ce jugement qui va s'abattre inévitablement sur son peuple. Ça va venir, Dieu l'a annoncé. Habacuc connaît Dieu et il sait que toutes les injustices commises au sein de son peuple ont provoqué cette colère que Dieu déverse. Et il sait aussi, parce que Dieu lui a dit, qu'il doit vivre en lui restant fidèle, qu'il doit vivre en s'attachant à lui, en comptant sur lui. Le juste vivra grâce à sa fidélité, grâce à sa foi. Et tout en disant à Dieu qu'il est effrayé, il prie aussi, on le voit à la fin du verset 2, « Dans ta colère cependant, pense à être clément. » Le jugement est inévitable, mais le prophète ne peut s'empêcher de faire appel à la compassion de Dieu. Dans ta colère, pense à être clément. On le voit dès le livre de l'Exode, Exode chapitre 33, verset 19. L'Éternel avait dit à Moïse, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Habacuc sait que l'Éternel a de la compassion en réserve, malgré sa colère. Et en quelque sorte, le prophète est en train de dire « Accomplis ton jugement, mais ne nous détruis pas complètement. » Et je reviendrai sur la partie centrale de notre chapitre. Mais je vous propose de faire un saut et de regarder tout de suite au verset 16. J'ai entendu cette nouvelle, et il s'agit toujours de cette même nouvelle, les Babyloniens qui arrivent. J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant, puisqu'il me faut attendre sans bouger le jour où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. L'émotion du prophète ici est tout à fait vive, et il l'exprime en disant ce qui se passe par des manifestations même physiques. Mes lèvres balbutient, mes os se dissolvent. Ça va être terrible ce qui va arriver. Et il le ressent dans son corps. À l'idée que ces Babyloniens sans pitié vont débarquer, il en tremble. Et nous serions dans le même état si demain nous savions qu'une armée étrangère était à nos portes, prête à en découdre avec nous. Alors notre réflexe serait peut-être de partir tout de suite, ou bien de rester et de nous attendre à Dieu. En tout cas, pour Habacuc, il ne va pas bouger. Dieu lui demande d'attendre avec foi son intervention. Il le dit à la fin de ce verset 16, « Puisqu'il me faut attendre sans bouger. » Dieu va certainement faire quelque chose. Habacuc l'espère et il le croit. Dieu va certainement faire quelque chose, mais en attendant, il le dit ici, l'ennemi doit nous assaillir. La perspective pour l'avenir est dans un premier temps assez sombre. Et le verset 17 semble le suggérer. Car le figuier ne bourgeonnera plus. Il n'y aura plus de raisins dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos et les bovins de leurs étables. Si les Babyloniens viennent, il ne restera pas grand-chose. Voilà la catastrophe qui attend le peuple. Voilà ce que Habacuc redoute. Et pourtant, malgré tout cela, en sachant cela, le prophète ne se laisse pas gagner par le désespoir. En dépit de ces circonstances qui l'effraient, le prophète a confiance en son Dieu. Et c'est ce qu'il exprime dans cette prière du chapitre 3. Et nous, à quoi ressemblent nos prières? Celles que nous faisons quand personne d'autre nous entend. Est-ce que nous livrons aussi notre cœur à Dieu en lui faisant part de nos frayeurs, de notre trouble? Et dans ce chapitre 3, nous voyons des sentiments qui sont contrastés et qui peuvent aussi nous animer entre peur et espoir, entre crainte et confiance. Et quand nous vivons des temps difficiles, en particulier liés à des injustices, à quoi ressemblent nos prières? Est-ce que nous nous mettons à crier à Dieu? Qu'est-ce que nous lui disons dans nos prières, dans ces moments-là? Il y a l'autre question, qu'est-ce que nous ne lui disons pas dans nos prières? Eh bien, le texte de ce matin, comme le premier chapitre du livre d'Habacuc, nous apprend à dire les choses au Seigneur. À dire ce qui nous trouble dans ce que nous vivons. Et en même temps, à nous en remettre à lui. À nous attendre à son intervention. Et comment Habacuc parvient-il justement à garder confiance en Dieu? C'est là que nous allons nous intéresser à la partie centrale, les versets 3 à 15. Parce que Habacuc parvient à garder confiance en Dieu précisément parce que le salut vient toujours de Dieu. Et j'ai pensé spontanément, en réfléchissant justement à ce thème, le salut qui vient toujours de Dieu, j'ai pensé spontanément à ces versets du psaume 121 que vous connaissez sans doute également. « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Vous connaissez la suite ? D'où me viendra le secours ? La réponse, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. D'où me viendra le secours ? D'où me viendra l'issue de cette situation ? D'où me viendra la solution ? D'où me viendra le salut ? La réponse porte un nom, l'Éternel. Et c'est aussi ce que le prophète Habacuc a en tête. Et il voit déjà Dieu venir, conformément à sa promesse. Nous le voyons dès le verset 3. Dieu viendra de Théman, le Saint viendra du mont Paran. Alors ces lieux peut-être ne nous sont pas familiers, mais ils sont situés au sud du pays d'Israël. Et plus précisément, ils correspondent à des endroits par où les Israélites sont passés alors qu'ils marchaient vers la terre promise autrefois, à l'époque de l'Exode. Et peut-être Habacuc pense aussi à ce texte de Moïse en Deutéronome chapitre 33, verset 2. Moïse qui dit « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi des monts de Paran et il est sorti du milieu des saintes troupes. » Oui, dès ce verset 3 et dans la suite du texte, nous avons des allusions à l'Exode et à ce que Dieu a fait autrefois aux ennemis de son peuple. Habacuc, en fait, envisage que Dieu fasse comme autrefois, que Dieu délivre comme autrefois, qu'il accomplisse en quelque sorte un nouvel Exode. De la même manière, comment puis-je être certain que Dieu va une fois de plus intervenir dans ma vie, alors que je passe par des circonstances qui me troublent? Comment puis-je être certain qu'il va faire quelque chose? Eh bien, en regardant en arrière. En regardant dans l'histoire biblique, bien sûr, parce que Dieu a fait de grandes choses pour son peuple. et en regardant à ce que Dieu a fait aussi dans mon passé. C'est de cette manière que nous gardons confiance en Dieu, en comptant sur sa fidélité. Ce qu'il a fait autrefois, il peut bien sûr le refaire encore aujourd'hui. Je compte sur sa fidélité. C'est Jérémie qui dit « Oh, que ta fidélité est grande !» Pour Habakkuk et les Israélites de son temps, c'est au moment de l'Exode que Dieu a déployé sa force, que Dieu a délivré de manière magistrale et spectaculaire son peuple. Et donc, Habakkuk s'appuie sur ce souvenir lointain pour espérer l'intervention de Dieu dans la suite. Et commence alors une description de Dieu qui nous est peut-être assez inhabituelle. Sa majesté couvre le ciel et sa louange remplit la terre. Il a l'éclat de la lumière et de sa main jaillissent deux rayons. C'est là qu'est le réservoir de sa force. La peste meurtrière chemine devant lui et la fièvre brûlante marche à sa suite. S'il vient à s'arrêter, il fait vibrer la terre. Quand il regarde, il ébranle les peuples. Les montagnes antiques sont disloquées et les collines des anciens temps s'effondrent. Il parcourt à nouveau les antiques sentiers. J'ai vu les tentes de Kushan réduites à néant, les abris de Madian trembler, épouvantés. Est-ce contre les fleuves que l'Éternel s'irrite? Est-ce contre les fleuves que ton courroux s'enflamme? Est-ce contre la mer que ta fureur s'exerce? Pour que tu viennes aussi monter sur tes chevaux, sur tes chars victorieux. Ton arc est mis à nu, tes traits sont les serments que tu as prononcés. Pause. Tu crevasses la terre, livrant passage au fleuve. Les montagnes t'ont vu et elles tremblent. Des trombes d'eau s'abattent. L'abîme se met à mugir, lançant bien haut ses vagues. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de celui dont la majesté couvre le ciel, dont la louange remplit la terre. Effectivement, nul n'est comparable à ce Dieu redoutable, à ce Dieu qui sort pour le combat. Et voyez sa puissance. On le voit au verset 5, il envoie des maladies, comme il l'a fait en Égypte. Il fait trembler la terre, même ce qui est censé être stable sur notre terre, les montagnes, les collines, eh bien vacille quand Dieu se manifeste. Et les peuples le craignent. Qu'est-ce que ça donne quand Dieu s'en prend à la mer? Eh bien, nous le voyons au verset 8, Dieu est présenté comme un cavalier qui part à l'assaut. Et à quel moment Dieu a-t-il maîtrisé la mer? À quel moment de l'histoire Dieu s'en est pris justement aux ennemis du peuple? N'est-ce pas lors de l'Exode, au moment du passage de la mer Rouge? Oui, nous avons ici une évocation d'une action passée de Dieu. Et Habakkuk le croit, Dieu peut faire la même chose encore. Lisons encore la suite qui est tout aussi épique. À partir du verset 11, le soleil et la lune restent dans leur demeure, devant l'éclat de tes flèches qui partent et la clarté des éclairs de ta lance. Avec colère, tu parcours la terre, tu foules les peuples aux pieds dans ton indignation. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver ton roi qui a reçu l'onction. Tu as décapité la maison du méchant et tu l'as démolie de fond en comble. Pause. Tu transperces la tête de l'ennemi avec ses propres flèches, alors qu'il arrivait comme un vent d'ouragan dans le but de nous disperser. Déjà, nos ennemis se réjouissaient, comptant bien dévorer l'opprimé en secret. Et le verset 15 qui nous rappelle encore cet élan vers la mer. Tu as lancé tes chevaux dans la mer, dans le bouillonnement des eaux puissantes. Si on devait juste résumer ces quelques versets que je viens de lire, on dirait simplement qu'on est en train de décrire l'intervention de Dieu qui vient délivrer son peuple. Et certains voient, notamment dans le verset 11 par exemple, ce soleil et cette lune qui restent dans leur demeure comme une allusion à ce qui s'est passé aussi dans le passé, lors de la conquête du pays de Canaan, au temps de Josué. Ça nous est raconté dans Josué 10, lors d'une bataille où les ennemis étaient mis en déroute, et pour que cela puisse aller jusqu'à leur complète défaite, eh bien Josué, en priant Dieu bien sûr, a demandé que le soleil et la lune s'arrêtent dans leur course et que le jour se prolonge. Et peut-être effectivement que le verset 11 fait allusion à cela. Un rappel que Dieu a fait cela dans le passé et a délivré son peuple de ses ennemis. Je veux revenir encore dans ce texte d'Habacuc. Oui, les versets que nous avons lus décrivent l'intervention de Dieu en faveur de son peuple. Le secours vient de l'Éternel. Le salut vient toujours de Dieu. Et Habacuc compte là-dessus. Dieu va encore intervenir pour délivrer son peuple de ses ennemis. Et toutes les délivrances que nous avons dans l'histoire d'Israël devaient préparer le peuple à une plus grande délivrance, à un nouvel exode. Tout ce que le peuple a connu à chaque fois que Dieu est intervenu pour le délivrer, pour le sauver, devait le préparer à pouvoir s'attendre à une délivrance plus grande encore. Et en effet, la plus grande délivrance que le peuple d'Israël et le monde entier ont connue, c'est lorsque Jésus, par sa mort sur la croix et sa résurrection, a triomphé des ennemis du peuple de Dieu, c'est-à-dire le péché, la mort et Satan. Oui, à la croix, c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a remporté une grande victoire et a délivré ainsi son peuple de ses ennemis. Et à vrai dire, de manière comparative, il n'y a pas de plus grande victoire et de plus grande délivrance que celle-ci. Oui, par son œuvre qui rend possible le pardon de Dieu et notre réconciliation avec lui, Jésus a rendu le péché impuissant pour nous condamner. Le péché qui précisément devait nous éloigner à jamais de Dieu a été rendu impuissant à la croix. Et en changeant de maître, les Israélites n'étaient plus tenus d'obéir au Pharaon. Je fais allusion à l'Exode. Et en changeant de maître, nous ne sommes plus tenus de servir d'esclaves au péché. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle condition. Et l'apôtre Paul l'exprime de cette façon dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Je lis quelques extraits, versets 6 et 7. « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. » Et les versets 10 et 11 de ce même chapitre 6, « Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Pendant longtemps, dans ma jeunesse, alors que j'étais déjà chrétien, alors quand je dis dans ma jeunesse, ça peut faire rire certains, mais oui, il y a eu un temps où j'étais jeune. Alors que j'étais déjà chrétien, je me pensais toujours esclave du péché. Parce que je constatais en fait dans mon expérience que je péchais encore. En quoi avais-je changé de maître ? Je péchais encore. Et je suis sûr que vous pouvez vous identifier aussi à cette expérience-là. Mais c'était mal comprendre ma nouvelle condition. C'était mal comprendre ma nouvelle vie. Dès lors que j'ai accepté le sacrifice de Jésus pour moi, dès lors que ma vie a pris une autre orientation, résolument tournée vers Dieu, j'ai commencé une vie nouvelle. C'est-à-dire une vie où le péché n'est plus mon maître. Dans cette nouvelle vie, je ne dois plus rien au péché. Dieu est mon maître. Et si je pêche encore, c'est que ma transformation est toujours en cours. Elle n'est pas encore achevée. Je ne suis pas encore totalement et pleinement la nouvelle créature que Dieu veut que je sois. Si je pêche encore, c'est que effectivement Dieu me rend progressivement, pas à pas, petit à petit, semblable à son Fils. Pas tout d'un coup, pas du jour au lendemain, mais petit à petit, un jour après l'autre. Donc oui, dans ce contexte où je progresse pas à pas, je pêche encore. Et Dieu me montre progressivement, petit à petit, pas à pas, ce qui n'est pas compatible avec cette nouvelle vie que je suis en train de vivre. Il pointe du doigt les choses qui ne vont pas dans ma vie, les péchés qui sont tapis au fond de moi. Et si vous appartenez à Christ comme moi, vous n'êtes plus esclave du péché. C'est là la délivrance dont on doit toujours se souvenir. Dieu nous a libérés et nous sommes libres, véritablement. Vous n'êtes plus esclave du péché. Christ vous a libérés. Votre nouvelle vie a déjà commencé, votre transformation aussi. Oui, nous luttons encore contre nos péchés, et c'est une bonne chose de lutter plutôt que de céder. Mais fondamentalement, au plus profond de nous-mêmes, désormais, nous voulons vivre pour Dieu. Voilà la transformation qui a commencé en nous. Et c'est bien la plus grande délivrance que Dieu a opérée dans notre vie, en nous libérant de l'esclavage du péché. Et dans sa grâce, il nous a permis de commencer une nouvelle vie. Et je voulais prendre le temps simplement d'insister là-dessus, parce que c'est réellement ce qui s'est passé pour nous. Peut-être qu'on ne l'a pas vécu de manière aussi spectaculaire comme au moment de l'Exode où la mer s'ouvre et se referme sur les ennemis du peuple. Mais Dieu a jeté nos péchés au fond de la mer. C'est ce que dit le prophète Michée. Pour que nous puissions plus avoir peur finalement de retourner en arrière. Ne plus avoir peur d'être de nouveau esclaves du péché. Non, la libération est véritable et entière. Habacuc parvient à garder confiance en Dieu parce qu'il sait que Dieu va intervenir. Il sait que Dieu en personne va venir. Et de même, ce qui nourrit notre espérance aujourd'hui, même si nous avons tous très chaud, j'en ai bien conscience, ce qui nourrit notre espérance, c'est de savoir que le Seigneur en personne va revenir pour achever l'œuvre de salut qu'il a commencée en nous. Et dans ce sens, nous attendons encore notre salut, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Sommes-nous de celles et ceux qui l'attendent pour leur salut? Comme Christ est venu une première fois, nous savons par la foi, parce qu'il l'a fait une première fois, qu'il reviendra une seconde fois. Nous sommes comme Habacuc dans une posture d'attente. Et c'est ce que nous allons voir dans un dernier temps. Et je vais essayer d'abréger. Je reviens effectivement sur la fin de notre texte. On disait tout à l'heure que le prophète était troublé à cause du jugement inévitable que Dieu allait faire venir sur son peuple. L'avenir ne s'annonce pas rose, mais Habacuc a confiance en l'Éternel, son Dieu. Nous l'avons vu, il se réfère aux interventions que Dieu a opérées par le passé en faveur de son peuple. Il se réfère à ces délivrances puissantes que Dieu a opérées au moment de l'Exode. Et même si les circonstances vont être difficiles, le prophète fait le choix de vivre en étant attaché à Dieu, en étant fidèle à Dieu, en continuant d'avoir confiance en Dieu. Le prophète fait le choix, même, on le voit au verset 18, il fait le choix de se réjouir en Dieu. Alors que les circonstances ne sont pas faciles, alors qu'il continue de dire « Pourquoi il y a tant d'injustices ?» Et alors qu'il se demande aussi « Pourquoi tu fais venir les Babyloniens ?» Il fait le choix de se réjouir en Dieu. Il le dit au verset 18 « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. » Et l'attitude du prophète ici est exemplaire. Parce que c'est effectivement de cette manière qu'il faut réagir en pareilles circonstances. C'est précisément quand c'est difficile, quand on est troublé, quand on ne comprend pas pourquoi Dieu n'intervient pas tout de suite, qu'on peut se dire « c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir ». Habacuc voit en Dieu la source de sa joie. Et nous avons un aperçu de ce qu'est une relation personnelle avec Dieu. Et cela s'exprime bien sûr par la foi. Nous avons confiance en lui. Nous croyons en lui. Et cela s'exprime aussi par la joie. La joie à cause de celui avec qui nous sommes en communion. Je suis sûr qu'il y a dans votre entourage des personnes avec lesquelles vous prenez plaisir à passer du temps. Il y a peut-être tout de suite des visages et des noms qui vous viennent. Des personnes avec qui vous aimez passer du temps. Ça vous procure de la joie. Même quand vous n'êtes pas dans votre assiette, même lorsque les circonstances sont difficiles dans votre vie, même si vous cumulez plein de soucis, il y a des personnes dans votre entourage, je l'espère en tout cas, qui font votre joie. Vous prenez plaisir à les voir. Peut-être des amis de longue date, des amis qui ont toujours été fidèles, dans les coups durs comme dans les bons moments, ils étaient là. Des personnes avec qui vous aimez, vous appréciez particulièrement parler parce que vous savez que vous allez passer un bon moment. Je suis sûr que vous avez dans votre entourage des personnes comme ça. Et pour Habacuc, c'est ce qu'il ressent quand il se tourne vers Dieu. Par son attitude, Habacuc nous enseigne qu'il y a de la place pour la joie, même au milieu des temps difficiles. Il y a de la place pour la joie, même au milieu des temps difficiles. Il y a de la joie à être en relation avec le Tout-Puissant, avec le Dieu Sauveur. Si nous ne trouvons pas de la joie dans ce que nous vivons en ce moment, il y a de la place, il y a de la joie à cause du Dieu de notre salut. À quand remonte la dernière fois où nous avons eu de la joie à retrouver Dieu dans un tête-à-tête ? Et je me pose aussi cette question, parce que ce n'est pas si souvent, malheureusement. À quand remonte la dernière fois où nous étions excités à l'idée de pouvoir retrouver Dieu dans un tête-à-tête ? Plein de joie. À cause de lui ! À cause de ce qu'il est, à cause de la relation que j'entretiens avec lui. Et si ce n'est pas Dieu qui fait notre joie, où mettons-nous alors notre joie éphémère ? Et je parle bien de joie éphémère pour les autres choses, parce qu'avec Dieu, la joie n'est pas éphémère. Avec Dieu, quand notre joie est liée à Dieu, notre joie n'est pas éphémère. Puisque même dans les circonstances difficiles, nous pouvons vivre cette joie. Et alors que la joie l'anime, le prophète peut dire ces paroles au verset 19, « L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. » Là, il retrouve de la joie, donc il peut dire cela. « C'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. » Alors, je vous accorde que ici, l'image qui est employée n'est pas courante de nos jours. Rares sont les personnes qui se comparent à des biches. Mais Habacuc est en train de dire qu'avec le Seigneur, il se sent en sécurité. Voilà ce qu'il exprime ici. Avec Dieu, il se sent en sécurité. L'avenir peut être difficile, mais l'Éternel est sa force. L'avenir peut être difficile pour nous ne savons pas, mais l'Éternel est notre force. Et c'est ainsi que se termine le livre d'Habacuc. Sur une note positive, alors même que le pire est à venir. Parce que tant que Dieu est là, et c'est ce que nous voulons retenir, tant que Dieu est là, l'espoir ne disparaît pas. Tant que Dieu est auprès de son prophète, il se sent léger comme une biche. Son cœur est troublé, il l'a mentionné, hein, mais c'est en Dieu qu'il se confie. Parce que Dieu ne change pas, notre cœur peut être rassuré. Il est ce rocher solide. Parce que le Dieu de notre salut ne change pas, lui qui a témoigné son amour par Jésus-Christ, nous pouvons nous attendre à ce qu'il intervienne dans notre vie. Et encore mieux, nous pouvons nous attendre à ce qu'il revienne en personne. Et nous le savons par sa parole, notre Dieu viendra. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons t'exprimer d'abord notre reconnaissance pour ta parole. Merci pour tout ce qui a été exprimé dans ce livre d'Habacuc. Et bien souvent, nous pouvons aussi être aux prises aux mêmes réalités, à des situations où nous connaissons la souffrance, l'injustice, où nous voyons se produire l'injustice sous nos yeux et où nous avons cette impression que tu ne fais rien. Mais merci notre Dieu parce que, oui, nous pouvons totalement être sincères avec toi et t'exprimer ce qui nous trouble, t'exprimer nos pourquoi et pour autant, en même temps, être à l'écoute, comme l'a été Habacuc, en entendant cette réponse que tu nous donnes, le juste vivra par sa foi. Oui, Seigneur, c'est ce que nous avons encore avec nous. Même dans des circonstances difficiles, nous avons encore cette foi placée en toi. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es totalement digne de confiance. Et merci parce que tu as agi par le passé, tu as délivré de maintes fois. Nous pouvons tous prendre le temps d'en témoigner. Et nous savons, Seigneur, oui, que nous pouvons nous attendre encore à ce que tu continues d'agir dans notre vie, à ce que tu continues d'intervenir à chaque fois que nous en aurons besoin. Et si, Seigneur, tu décides de ne pas nous délivrer ici-bas, tu le feras ultimement. Et ça aussi, nous en sommes certains. Oui, notre Dieu viendra. C'est notre espérance que nous voulons garder attachée à notre cœur. Parce que, Seigneur, tu es ce Dieu qui ne ment pas. Merci encore pour cette promesse. Et fortifiés de cette promesse, eh bien, nous attendons dans la joie et dans la confiance. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions ensemble. Amen.